Je trouve que vous avez vraiment du courage. Hein. Vous êtes disposé à m'écouter, là. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas une heure pour être... Voilà. Mais bon. Voilà, je suis de nouveau heureux d'être avec vous. Et voilà. Et nous allons continuer donc notre méditation. Quant à l'unité, hier, je vous avais présenté l'unité des chrétiens, son existence et cet ordre d'avoir à la conserver. Le titre que j'avais mis hier est un peu hermétique. Vous savez, c'est au sujet du rapprochement de deux communautés de chrétiens et qui un membre du conseil s'exprimait et disait « Mais vous n'y pensez pas, ce sont des méthodistes. » Alors j'avais mis un titre un peu hermétique. Et aujourd'hui, le titre, la réponse, est un peu une réponse. C'est peut-être un peu la mienne, je ne sais pas si c'est celle du Seigneur. « Répond à l'insensé selon sa folie. » Alors, aujourd'hui, ça sera beaucoup plus personnel. C'est éclairé par la parole de Dieu. Je me suis tourné vers le Seigneur, mais c'est ma conviction que je veux partager avec vous. Et comme ce n'est que cela, c'est tout à fait discutable. Donc, je vous proposerai, il va y avoir trois parties là dans mon exposé, et à la fin de chaque partie, on essaiera de discuter. Vous savez, c'est bien. Moi, je parle ici et j'éprouve l'acoustique de votre salle. Et vous, c'est la première fois que vous y êtes, et je vous ai piqué ce privilège. Alors, vous allez avoir l'occasion, je vais vous poser des questions et vous écouterez parler, vous entendrez. Voilà, ça aura au moins cet avantage-là, mais je pense que ça en aura beaucoup d'autres en écoutant la parole du Seigneur. Voilà, j'ai perdu mon texte, mais ça devrait aller. Voilà, on est bien le 19 aujourd'hui, voilà. Voilà. Alors, hier, nous avions évoqué le morcellement du monde évangélique, qui est lui-même un morceau du mouvement issu de la Réforme, qui est lui-même un morceau de l'Église universelle. Et nous nous interrogeons donc depuis hier sur qu'y a-t-il de juste, qu'y a-t-il de justifié dans cette situation? C'est une première question. Nous l'avions laissée de côté hier pour voir plutôt la question de nous, notre position par rapport à l'unité. Mais cette question, il nous faut l'aborder. C'est ce que je vous propose ce soir. Nous avons besoin d'une réponse pour aller de l'avant, une réponse pour notre âme et pour notre conscience. Je ne reviendrai pas sur ce que je disais hier, mais il y a des questions qui se posent. De toute façon, elles se posent toujours dans la vie des églises. Et là, il y en a qui s'approchent de nous et il va falloir prendre des positions. Peut-être que des temps difficiles se présentent devant nous. Jésus, lui aussi, a vécu, alors c'est un euphémisme de le dire, des temps difficiles. Et quand il a été devant ce moment où il fallait qu'il aille vers la croix, il a prié son Père et il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». C'était la prière de Jésus dans une occasion unique, décisive. Et je vous propose que cette prière devienne notre prière pour tous les instants, pour toutes les choses de nos petites vies. Tout devient objet d'interrogation. Alors, parce que les chrétiens se posent des questions sur ce qu'ils sont, sur leur vie, sur leur façon d'être, il y a des réponses qui sont données, des réponses reçues, des réponses envisagées, et des réponses qui divergent. Et selon une logique qui paraît imparable, les chrétiens se regroupent par affinité. par communauté de réponses à des questions. Et ces regroupements, ces dénominations deviennent alors pourvoyeurs de réponses. Solutions théologiques, éthiques, ecclésiologiques, solutions clés en main. À mon sens, mais c'est mon sens, le système ainsi développé devient encombrant quand il suggère aux croyants des questions auxquelles il convient de répondre et dont la réponse est déjà là, disponible, évidente. Les dénominations proposent souvent du prêt à croire, du prêt à vivre, du prêt à partager. Alors je crois qu'on ne choisit pas son type de foi comme on choisit la marque de sa voiture. On ne choisit pas forcément d'ailleurs. On adhère. Et après ? Eh bien, c'est parfois difficile, déroutant. Un peu comme si la fatalité de la division nous était tombée dessus. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit que de nos limites à nous. Et ce sont certaines d'entre elles que je veux relever maintenant. Alors c'est cela que je vous dis, je vais en relever trois, mais juste, je vous rajoute un peu, je l'ai dit ce matin quand Jean Rubin m'a interrogé, je ne veux pas vous donner une liste exhaustive de façons de ce qu'il faudrait croire ou penser, je veux juste que nous puissions penser que et voir nos limites. Et je ne veux pas changer vos convictions, je n'ai pas envie de les changer, d'autant plus qu'elles soient beaucoup ressemblées aux miennes, je ne veux pas les élargir, je ne veux pas ouvrir des perspectives, je veux juste que nous ayons conscience, que chacun de nous ait conscience de ses propres limites, dans sa foi, dans la vie de sa foi, dans la conception de sa foi. Alors, dans ce qui constitue les divisions entre les différentes dénominations chrétiennes, il y a bien sûr le poids de l'histoire. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, et vous en êtes sûrement conscient, ces insolubles questions de personnes. Mais au-delà de ces éléments qui relèvent simplement, je devrais dû mettre des guillemets, simplement du péché et donc de la nécessaire sanctification, il faut, je crois, aller plus loin et voir les autres raisons de ces divisions qui relèvent de ce que nous sommes, des créatures limitées, pas faibles, limitées. Alors, j'ai une première remarque que je voudrais vous présenter. Je crois, en y réfléchissant, que la durée et la profondeur de nos divisions sont suspectes. Depuis le départ, depuis les Actes des Apôtres, depuis les Corinthiens en particulier, le monde chrétien a une certaine tendance à la division. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13, « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Alors voilà, c'est de l'histoire ancienne. Hein ? Et cela s'est vérifié au cours des siècles. Après un tronc commun, il faudrait revenir sur ce mot, de 1500 ans, le christianisme s'est divisé. Nous célébrerons l'année prochaine ces 5 siècles d'existence de la Réforme. mais déjà ce qu'il est convenu d'appeler les pères de l'Église ne cessaient de défendre les positions qui leur paraissaient les plus justes. J'ai été frappé en regardant l'histoire de l'Église. Souvent, les textes qui nous sont parvenus ont pour titre « Contre un tel, contre un tel ». C'était souvent le titre de leurs ouvrages. Et puis même si vous lisez les confessions de saint Augustin, c'est une lecture édifiante et agréable, voilà. Vous verrez l'ampleur de ces turbulences dans l'Église de l'époque au tournant du 5e siècle. C'est du violent entre croyants qui prétendent chercher et défendre la volonté de Dieu. Et par la suite, et en continuant, des querelles théologiques se sont installées durablement du fait de notre dénomination, du fait que nous sommes des méthodistes, nous sommes au cœur d'une telle querelle. Combien de fois et avec quelle intensité les calvinistes ont accusé les méthodistes wesleyens d'être catholicisants en raison de leur conviction arminienne. Et réciproquement, avec d'autres attaques, d'autres arguments de la même teneur. Pour en arriver au début du 21e siècle, à ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous n'y pensez pas, ce sont des méthodistes que j'évoquais hier. Alors si vous ne comprenez rien aux références doctrinales que je cite, ne vous inquiétez pas. Les médisants de tout poil ne tarderont pas à vous affranchir. Et dans l'attente, l'ignorance n'est pas grave. L'ignorance des tenants et des aboutissants ne vous empêchera aucunement de vivre pleinement votre foi. Restez concentrés, la tête dans le guidon, pour suivre Jésus-Christ. En plagiant Paul, je me permettrai de proclamer « Calvin a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Wesley que vous avez été baptisé ?» Depuis le début du XIXe siècle, les choses ont très largement empiré, en particulier avec le morcellement dramatique de ce qu'il est convenu d'appeler le monde évangélique. Aujourd'hui, cette tendance, là je mets un mot, c'est de moi, cette pente fatale s'accentue. Si vous n'êtes plus vraiment d'accord, si vous vous êtes trouvé un alibi théologique, pas forcément en or ou en argent, le bois et la paille vont très bien aussi, vous créez une église de maison, vous serez quatre au début, mais finalement, vous arriverez à plafonner à 10 ou 12 et vous ne rendrez de compte qu'à Dieu seul, pour autant que vous l'entendiez encore. Avec vos oreilles, parce que elles sont faites pour entendre. Voilà donc pour un tableau sommaire et caricatural de nos divisions. Des positions figées depuis des millénaires. Mais on ne peut pas trier les bons des mauvais, pas toujours en tout cas. Tous, ou la plupart au moins, sont enfants de Dieu, dotés, je le disais, d'oreilles pour entendre. Ils sont hommes de bonne volonté. Ces discordes historiques ont lieu entre enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Pourquoi, malgré le temps qui passe, malgré la connaissance qui augmente, c'est une promesse du prophète Daniel, pourquoi les propositions restent inconciliables? Hommes de bonne volonté, vraiment? Pourquoi cette paix est-elle si longue à venir? Pourquoi l'amour ne triomphe-t-il pas? Qu'y a-t-il de si irréductible entre nous? La vérité, car il y en a une. La vérité est-elle d'un côté, de l'autre, des deux côtés, nulle part? En tout cas, nos désaccords se prolongent, se propagent et nous donnent une idée saisissante de l'infini. Alors voilà ce que je voulais dire pour nous mettre en garde sur ce fait de nos divisions, sur ce fait des jugements que nous pouvons avoir les uns avec les autres, se poser des questions, ne pas les accepter comme telles, ne pas les accepter comme inéluctables et venues du fond des âges, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Peut-être pas, hein. Alors voilà, je ne sais pas, quel est votre avis ? Est-ce que quelqu'un a une opposition, ou est-ce que vous pensez que c'est définitif, ou voilà, est-ce que comment vous les vivez, vous, ici, peut-être, particulièrement ? Est-ce que vous avez des réactions, ou est-ce que c'est encore l'heure de la sieste ? Voilà. Non, je ne sais pas. Hein. Mais sinon, on continuera, on discutera à la fin, hein. Donc ça, c'était le premier point. Hein. C'était le premier point. Nos divisions, au-delà de ce qu'elles sont, sans réfléchir au contenu, à aucun contenu théologique ni à aucune affirmation, ces divisions qui existent et qui durent entre personnes qui se réclament de Jésus-Christ, eh bien, elles doivent nous faire poser des questions. Je crois que ce n'est pas normal. Ou pas aussi normal que nous voudrions le croire. Et il y a un deuxième point. Alors mon titre est un peu plus énigmatique. Je vous le dis quand même parce que voilà. Dieu est le chat de Schrödinger. Voilà. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Alors j'aime la théologie, je pratique la théologie. Mais je crois que tous les discours de tous les théologiens devraient être ponctués par cette affirmation. Et c'est ce que je voudrais maintenant m'attacher à établir. Parler de Dieu, évoquer Dieu, dire ce qu'il nous révèle de ce qu'il est et de ses intentions, ça c'est ce que nous faisons. Mais ce Dieu dont nous nous approchons, il est tellement, tellement au-dessus de nous, tellement supérieur, tellement pareil qu'il en est absolument différent. Dieu, Dieu saint. Et nous commentons ça, nous réfléchissons, nous expliquons, pris au piège de notre intelligence, notre remarquable intelligence, celle que Dieu nous a donnée et qui participe du fait que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous croyons même que nous comprenons, que nous le comprenons. Et c'est là qu'est le piège. Nous comprenons dans notre pensée, c'est clair. C'est indestructible, c'est logique, c'est juste, c'est vrai, c'est saint. Alors saint, pour l'instant, je l'écris S-A-I-N. Nous touchons la vérité. C'est vraiment ça qui se passe. Mais la prudence de lier à nos limites voudrait que nous pensions immédiatement vanité des vanités. Tout est vanité. L'humilité voudrait que nous nous disions, oui, vanité des vanités. Il y a cet autre, ce semblable, ce frère, animé du même esprit. Il y a un seul esprit, on en a parlé hier. Instruit par la même révélation, sauvé par la même grâce. Et lui aussi a réfléchi, mettant en œuvre son intelligence et sa sensibilité. Il a lui aussi compris, et dans son esprit c'est logique, c'est juste, c'est vrai, c'est saint. Seulement ce qu'il proclame est différent, opposé à ce que moi j'ai compris, opposé peut-être à ce que moi j'ai compris et que je proclame. Alors voilà, on en est là, et finalement c'est simple. Hein. Il a tort et moi j'ai raison. Vanité des vanités, tout est vanité. Pas toujours, mais parfois, souvent, le problème vient de la révélation elle-même, de la parole. Ce qu'elle nous montre est tellement grand, tellement supérieur, que la forme s'en ressent. Proverbe 26, versets 4 et 5. Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Ça, c'est le verset 4. Verset 5. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Voilà, deux versets qui se suivent. Tout est son contraire. Tout est tellement tout que tout confine et touche au contraire. Alors, selon ce que l'on comprend, ce que l'on reçoit, on est du côté de celui qui répond à l'insensé selon sa folie ou du côté de celui qui ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Et voici l'aube de deux dénominations séparées. Ah oui, hein, mon exemple est biblique, hein, mais il est simpliste, caricatural. Et je me refuse ici à évoquer quelque que ce soit de ces grandes causes qui nous séparent et qui parfois nous divisent. Mon propos n'est pas là, il se veut en amont de ces débats. Alors je n'évoquerai en aucun cas la prédestination, le libre arbitre, le millénium, le parler en langue, le baptême, les peines éternelles ou une éventuelle deuxième expérience. Seulement un exemple anodin qui ne nous mènera pas loin et qui permettra que je ne sois pas d'office catalogué. Et de ce fait, vous m'écouterez encore peut-être un peu. Alors, tout est son contraire. Essayons de voir un peu autrement. Regardons le chat de Schrödinger. Alors, vous n'êtes peut-être pas familier de la physique des particules en général et de la mécanique quantique en particulier. Mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Hein. Moi non plus. Ce ne m'empêchera pas de vous parler d'une expérience proposée par le physicien Schrödinger, donc en 1935, et en préalable, pour rassurer les âmes sensibles et la CSPA réunie, je dois vous préciser que cette expérience n'a jamais été réalisée. En fait, malgré son énoncé, ce n'est pas vraiment une expérience de physique, juste une expérience de pensée. Et cela nous touche tous, nous concerne. Peut-être que ça nous aidera à mieux appréhender les contradictions apparentes de la révélation, source de division entre chrétiens croyant avoir compris. Alors, le chat de Schrödinger, on peut mettre l'image, s'il te plaît. Alors, c'est un chat. Là, pour la commodité, sinon on ne voit rien. Alors, c'est un chat qui est enfermé dans une boîte, avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive, le truc avec l'étoile là-haut. Si un compteur GGR détecte un certain seuil de radiation, le flacon est brisé et le chat meurt. Mais comme la boîte est fermée, on ne sait rien de ce qui se passe dedans. Alors, selon l'interprétation de Copenhague, c'est une école de pensée, le chat est à la fois vivant et mort. Pourtant, si nous ouvrons la boîte à un moment donné, nous pouvons observer que le chat est soit mort, soit vivant. Il y a deux états possibles pour le chat. Soit le chat est mort, soit le chat est vivant. Et devant la boîte fermée, comment pouvons-nous répondre dans quel état est le chat ? Selon les probabilités liées au problème posé, le chat a une chance sur deux d'être vivant et une chance sur deux d'être mort. Comment qualifier cet état ? Alors, j'emploie pas les termes scientifiques qu'il faudrait et qui conviendraient. On ne parle pas de chance, d'une chance sur deux, on parle de probabilité. Il y a des formules, je ne vous les ai pas marquées, mais si vous voulez, vous allez les chercher sur Wikipédia, c'est là que je les ai trouvées. Alors c'est déroutant, hein. C'est déroutant et compliqué. Alors, on ne peut pas dire que le chat est à la fois mort et à la fois vivant. Ça révolte notre pensée. Pour ceux qui ont un peu réfléchi, c'est la notion du tiers exclu. Hein. Donc, ça peut pas être. Alors, ce sont les physiciens qui ont expliqué ça, mais ça ne relève pas du tout de la physique. Les physiciens ont dit que les deux états étaient possibles et que les deux états n'étaient pas ensemble, mais qu'ils étaient, ils ont employé un mot, superposés. Alors voilà, je vous fais un petit exposé avec les mots qui sont les miens. Je ne suis pas vraiment physicien, pas du tout physicien. Je ne suis pas du tout dans la pensée philosophique. Alors, ça me paraît déroutant, compliqué. Je suppose que pour vous aussi. À quoi ça rime ? Il ne s'agit que de mécanique quantique, une science développée par la pensée de l'homme. Bon, un peu poussée dans ses retranchements, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'y accéder. C'est un truc à vous donner le vertige. Alors, l'expérience de pensée du chat de Schrödinger est-elle transposable à l'exégèse de la Bible ? Doit-elle être mise en avant ? Je ne l'affirme pas, je n'en sais rien. Peut-on dire, par exemple, que les hommes, créatures de Dieu, sont dans deux états, superposés, prédestinés et libres et responsables de leur choix ? Alors, je ne suis qu'un pasteur de raccro, je n'ai pas les moyens intellectuels de construire et soutenir un tel point de vue. Et à cet instant, je sollicite de votre haute bienveillance de bien vouloir ne pas me crucifier sur le champ pour avoir osé bousculer tel ou tel dogme. Et quoi qu'il en soit, mon vrai but n'est pas là. Mon vrai but n'est pas de proposer une énième acrobatie théologique. Mon vrai but, c'est de dire que la pensée de l'homme peut aller très très loin. Elle peut même donner le vertige ou dérouter, mais elle n'ira jamais assez loin pour cerner Dieu dans sa grandeur. Vanité des vanités, tout est vanité. À l'ambition découlant de notre capacité de penser, de l'incontestable et heureuse aptitude que nous avons de concevoir des choses difficiles, se rajoute une autre raison qui nous pousse à mettre notre pensée et nos convictions en avant. Nous avons peur, nous avons très peur d'être taxés d'obscurantisme. Alors nous expliquons, nous justifions, nous avons conscience que nos explications, nos justifications, forcément inabouties, sont en fait... j'ai oublié un mot et ça ne veut plus rien dire, excusez-moi. Je reprends ma phrase. Avons-nous conscience que nos explications, nos justifications forcément inabouties, sont en fait négation de la notion d'obéissance ? Qui pour exister vraiment doit être aveugle. Alors, pour terminer sur ce point et revenir vers mon sujet qui est d'évoquer le scandale ou la nécessité de nos divisions, je veux affirmer que j'ai sur Dieu et devant Dieu des convictions. Des convictions fortes. Et je sais que pour vous, il en est de même. Et c'est parfaitement bien. Il faut avoir des convictions. Des convictions de l'Esprit de Dieu, venant de l'Esprit de Dieu en nous. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si ces convictions nécessaires sont si fortes en vous, c'est que vous savez qu'elles sont vérité. Non pas votre vérité, non pas une vérité partielle, non pas une vérité réduite aux acquis, mais cette vérité en vous est la vérité de Dieu. Et il y a à côté, dans ma ville, ces frères et ces sœurs qui ont des convictions parfois différentes, qu'ils vivent quelque chose d'un peu différent, et qu'ils appellent aussi la vérité. Les deux semblent ne pouvoir coexister au nom du principe que j'évoquais tout à l'heure, au nom du principe du tiers exclu. Seulement Dieu est grand. Et Dieu est plus grand que ce qu'aucun homme pourra saisir, connaître. Donc le principe qui doit surnager, c'est que notre savoir est limité. Nous devons savoir, et Dieu nous révèle ce que nous devons savoir. Mais il y a la limite de ce que nous pouvons savoir. Il n'y a pas de secret défense, juste une connaissance qui nous dépasse. Alors le doute, je vous parlais du doute ce matin, le doute qui s'impose est celui lié à nos limites. Nous voulons et nous croyons savoir. Mais vanité des vanités, tout est vanité. Alors voilà, c'est mon deuxième point, et puis c'est tragique parce que ma pendule ne marche pas. Oui, ça va, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous voulez bouillir, fulminer ou approuver? Ça me ferait assez plaisir, ça, mais comme... Oui, non, tu as levé la main. Non, mais c'était pour dire bonjour. Oui. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ah, ben voilà. Troisième point, mais après il faudra parler, hein, partager. Troisième point, Dieu, la manière et l'art. Oui, j'ai fait exprès de chercher des trucs un peu difficiles pour que les gens ne comprennent pas du premier coup. Ça fait un peu, puis ça me donne, voilà, mais ne vous en faites pas, c'est pas très grave. Hein. Hébreux 1, versets 1 à 3. C'est l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu parle de plusieurs manières. Et nous connaissons Dieu au travers de sa parole. Et vous l'avez tous remarqué, cette parole est infiniment variée. Dans le style, dans la forme. Nous avons coutume de classer les livres par genre, historique, prophétique, poétique, épître. Un livre pluriel, une petite multitude d'auteurs, alors j'aurais pu mettre un chiffre rond, mais j'ai J'ai hésité à calculer. Alors. Voilà. Des époques différentes, des situations extrêmement différentes. Et il y a pourtant une grande unité qui tient bien évidemment à, j'ai mis entre guillemets, l'acteur principal, Dieu, à la révélation de Jésus et à l'œuvre du Saint-Esprit. Pour l'unité dans la diversité de la parole, nous sommes bien d'accord. Mais ce livre qui est notre référence, ce livre reste bien étrange. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas droit au but. Ou alors, il y va, et c'est de manière foudroyante, abrupte. De la Bible, donc, découle toute notre théologie. Mais la Bible, à part certaines parties finalement plutôt brèves, les épîtres, la Bible n'est pas un traité de théologie. Elle a su se faire comprendre et être au top dans tous les siècles, et ça, déjà, c'est pas rien. Mais du coup, elle a besoin d'être comprise. Elle peut même parfois paraître hermétique. Et je dis ça avec le respect qui nous habite quant à la parole de Dieu. Nous avons bien besoin de l'Esprit, du Saint-Esprit pour l'illuminer. Et de tout ça, de ce qui semble un peu décousu, nous imaginons de pouvoir et devoir tirer un précis de doctrine chrétienne, pour reprendre le titre d'un livre fort connu et fort utile. Nous analysons, nous disséquons, nous discutons, nous nous envoyons des versets à la figure. Oui, mais il est écrit. Et nous avons même encore de nos jours cette forme de confrontation appelée disputation. Deux théologiens prêchent tour à tour pour défendre deux points de vue différents. De préférence, ils ne s'écoutent pas. Un exercice de ce style a encore eu lieu la semaine dernière à Aix-en-Provence entre Élian Cuvillier et Donald Cobb, avait pour thème l'autorité des Écritures. On tourne en rond. Cette attitude respectable, au demeurant, génère naturellement des différences. Dieu parle, mais Dieu parle de plusieurs manières. Et nous, nous comprenons de plusieurs manières. Et je crois qu'il y a un vice de forme. Et le vice est bien sûr de notre côté. Nous sondons la parole, nous l'interrogeons sur le fond, et bien souvent nous ne nous laissons pas interpeller par la forme. Et pourtant la Bible est aussi, la Bible est aussi une œuvre d'art. Et elle touche notre âme aussi au travers de la perfection de son expression. Et nous, nous pensons encore, et au lieu de nous laisser interpeller par les mots directement, nous pensons. Alors, une petite illustration, elle est un peu légère, mais je n'ai pas trouvé mieux. Je vous raconte une blague. Je vais vous raconter une blague. Ça détendra l'atmosphère, pour autant qu'elle soit bonne. La blague. Alors, ça se passe un jour du mois d'août, aux environs de l'an 30, vous voyez où ça pouvait être, aux environs de Tibériade. Et il fait très, très, très chaud. Pour se rafraîchir, les gens se baignent. Et tout d'un coup survient Jésus. Jésus qui marche sur les eaux. Et il est interpellé par un baigneur. Mon pauvre, oui, elle avait l'accent du midi, c'est mieux. Mon pauvre, si tu savais comme elle est bonne. Alors ça peut faire rire. Mais si je pense et si je tente d'expliquer que c'est rigolo, que l'inversion de la vision du baigneur qui n'est pas sensible au miracle, mais qui se met à plaindre Jésus pour sa position exposée à la chaleur, alors qu'il a le bien-être à ses pieds, facilement disponible. Eh bien là, c'est sûr, ce n'est plus rigolo du tout. Il vous est arrivé à vous aussi d'expliquer des blagues, et vous savez très bien que ça ne marche jamais. Alors, bien sûr, dans la parole, il ne s'agit pas de blagues. Au contraire, c'est très sérieux, vital. Mais ne pensez-vous pas que vouloir expliquer la parole de Dieu au travers de longues études extrêmement fouillées peut être aussi, disons, décevant, pour ne pas porter ombrage à de doctes et laborieux docteurs de la foi. Il est très impressionnant de relever que la forme poétique est très largement utilisée dans la parole. Comme une blague, on n'explique pas un poème. On se laisse porter par les mots qui travaillent votre cœur. Avons-nous conscience que beaucoup de prophètes ont écrit sous forme de poèmes leur prophétie? Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, entre autres, se sont donné le mal de composer des vers. Et composer des vers, c'est contraignant, c'est très contraignant. Pour m'y être un peu collé, je peux vous dire que c'est du boulot. Je me demande parfois si notre volonté d'en rajouter une couche ne nous amène pas à discuter, interpréter des choses que nous devrions recevoir, simplement pour ce qu'elles sont, des mots remèdes de nos âmes. Et dans cet ordre, je voudrais citer ici une phrase de l'excellent livre de l'académicien Michael Edwards, qui a pour titre « Bible et poésie ». Nous nous égarons par insatisfaction devant les modes de parler de la Bible et son refus de tout élucider. Nous nous égarons et nous nous divisons. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors voilà, je vous ai dit trois points qui, à mon sens, devrait nous inciter à considérer nos limites, pas les limites de la vérité, mais nos limites à nous, nos limites pour connaître la vérité.